Si ça s'arrêtait lancement, tu vois, c'est marqué lancement.
Zéro.
Voilà, très bien. Alors, mesdames, Bezrat Hashem, à travers une petite notion de la paracha, on va essayer d'apprendre quelque chose d'énorme, de très grand, pour nous tous, dans nos foyers, Bezrat Hashem. Il faut savoir une chose, c'est que, ici, dans Parashat Vayakhel, nous arrivons dans le moment où c'est que Moshe Rabbeinu descend de la montagne et dit au Béné Israël qu'il est arrivé le moment de construire le Mishkan. Et là, qui c'est qui va construire? Qui est apte à construire? La Torah ne le dit pas, mais d'un seul coup, il est écrit, Moshe dit aux enfants d'Israël, « Réou, voyez, l'Éternel a désigné le nom de Betsalel, fils de Uri, fils de Hur de la tribu de Yehuda. » Donc c'est Betsalel qui va construire le Mishkan. Il a empli de l'Esprit de Dieu, d'intelligence, de discernement, de connaissance. Dieu lui a donné une grande chorma, une grande intelligence. Velachachov pour concevoir des œuvres d'art, pour mettre en œuvre l'or et l'argent et le cuivre. Enfin, voilà, toute l'histoire du Mishkan, la construction du Dieu Aaron, de l'Arche Sainte, de la Ménorah, de tout ce qu'il fallait pour construire ce Mishkan. Qui c'est qui va le faire? C'est Betsalel. J'essaie d'être court par rapport à cette petite partie de la paracha pour entrer vraiment dans le sujet. On va constater par un midrash la difficulté de... Comment on dit en français d'être mefargen? Hein? De complimenter. La difficulté de donner des compliments. Hein? Grosse difficulté de notre vie, c'est de complimenter. Regardez comment c'est marqué dans la paracha. Tout de suite, au moment où c'est que Moshe dit au Béné Israël, c'est Betsalel qui va construire le Mishkan, ça y est, il y a des groupes qui se forment dans le camp et on commence à discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Le Midrash y ramène quelque chose que j'ai découvert vraiment cette semaine. Je ne savais pas que même sur la nomination de Betsalel, il y a eu des problèmes. Et le Midrash, il dit, au moment où c'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe dans la montagne la construction du Mishkan, il lui a montré chaque ustensile comment il devrait être fait. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas levé un bon matin, il a dit, alors, la Ménorah, je la vois comme ça, et l'Arche Sainte, je la vois comme ça, et les Kérouvim, sympathiquement, je les vois comme ça. Non, tout Dieu lui a montré dans le ciel. Ve'aya Moshe Savour, Shiruya Seta Mishkan. Donc Moshe, il a dit, si Dieu me montre, c'est qu'il veut que c'est moi qui construise le Mishkan. D'ailleurs, il lui disait Dieu, et tu feras la table, et tu feras l'autel de sacrifice, et tu feras le kior. Le kior, c'était la citerne où c'est que les Kohanim devront se laver les pieds et les mains. Ça a été un peu le sujet de lundi avec les hommes. Alors, donc il pensait que c'était lui qui devait faire tout ça. Et Moshe dit à Dieu, Ribon Hashelon, là, maître du monde, mais à ses kolzot, qui c'est qui va faire tout ça? Il lui a dit, Re'e Karati Beshem Betsalel. J'ai demandé à ce que Betsalel, c'est lui qui va le faire. Quand Moshe descend, et il dit au béni Israël, voilà, Dieu, il a dit qu'on fasse telle et telle chose, etc. Ils lui ont dit, qui va faire ça? Il leur a dit, Betsalel. Et Trilo Israël, mais ramené ni mal, moi, ça a commencé. Et il se prend pour qui? Et il a nommé Betsalel. Et ce Betsalel, on ne sait même pas c'est qui. Et Lo Amarakadosh Baruch Hu, ils ont commencé à dire à Moshe, Dieu n'a pas dit de faire le Mishkan par l'intermédiaire de Betsalel. Et là, Moshe Me'atzmo Memane Oto, c'est Moshe qui l'a nommé parce que c'est quelqu'un de sa famille. Comment il est de sa famille? Eh bien, Myriam, la sœur de Moshe, avait un fils qui s'appelait Hur. Hur a été tué il n'y a pas très longtemps quand il a voulu s'interposer dans la faute du veau d'or. Donc le neveu de Moshe est tué. Ce neveu de Moshe avait un garçon qui s'appelle Betsalel. Donc en fait Betsalel c'est le petit neveu de Moshe. Ben oui, il nomme des gens de sa famille, Moshe Meller, ça recommence, Moshe le roi, Aaron son frère, comme ça s'est passé avec Korach. C'est extraordinaire. Aaron, son frère, est Cohen. Les enfants sont les adjoints des Kohanim. Eleazar, c'est le Nassi de la tribu de Lévi. Les enfants de Kehat, là encore, c'est que de la famille de Moshe, vont transporter les ustensiles du Mishkan pendant les 40 ans. Et la cerise sur le gâteau, Betsalel. Allez, voilà, Betsalel. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Réou, Moshe, il dit, Kara Hashem Beshem Betsalel. C'est Dieu. Il a fallu que Moshe mette tout son poids, il dit le Midrash, pour leur démontrer que c'est Dieu qui avait nommé. Mais pas seulement ça. Pas seulement ça. Il faut savoir une chose, c'est que la paracha de la semaine prochaine, c'est la paracha de Pekoudé. Paracha de Pekoudé, en deux mots, si je vous traduis en français, qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha? Un bilan comptable des matériaux qui ont été récoltés par les dons et qu'est-ce que Moshe en a fait. Et pourquoi il avait besoin de faire ça? Pourquoi il avait besoin de faire ça? Moshe de faire un bilan. Qui c'est qui lui a demandé de faire un bilan comptable? Non, Dieu ne lui a rien demandé. Alors, le Midrash ramène, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il passait pour aller vers la tente d'assignation, il est écrit que Vehibitu Acharei Moshe, il regardait derrière Moshe quand il passait. Tous les bénis Israël étaient là en train de regarder, pas tous, mais enfin il y avait une partie des bénis Israël. Et le Midrash, il dit, vous savez qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Vous savez qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Je vous lis les mots du Midrash. Rabbi Chama Amar Legnaï. C'était pour critiquer. Qu'est-ce qu'il aura fait encore, Moshe? Il n'aura rien fait, il a construit le Mishkan. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il dit Rabbi Chama, il le regardait passer et il disait, Re'et Savaro, regardez un peu sa nuque, regardez un peu ses hanches de Moshe Rabbeinu. Depuis qu'il s'occupe de notre argent, il a grossi. C'est dramatique. C'est-à-dire que, ici, la Torah nous dévoile un mécanisme qui est celui de la difficulté. Que quand tu vois que quelqu'un réussit, d'être, voilà, de flatter la personne, de féliciter quelqu'un, de lui dire « kol hakavod », surtout quand il réussit. Parce que malheureusement, quand une personne a des problèmes, il y a les gens s'apitoient sur son sort, mais quand tout va bien, d'être là et de féliciter et de dire qu'on la cavode, et c'est extraordinaire, c'est un gros problème dans l'être humain. Ça, c'est une facette de ce que la paracha nous apprend ici par rapport à ça. Et où ça voudrait m'amener cette réflexion? Mais d'abord, regardez, Béhémeth, c'est une chose qui est quand même assez difficile. Il faut savoir que le sujet principal dans un mariage, dans un couple, c'est ce qu'on appelle les sentiments et les compliments. On va le voir. Si on demande à une personne, à n'importe qui, pourquoi tu vas au boulot tous les matins, la réponse sera très simple. Hein. Une seule réponse, il n'y en a pas deux. La réponse, elle est pour la parnassa, pour gagner ma vie. Si par exemple, tu te trouves dans un endroit où tu travailles, donc tu es là-bas que pour gagner ta vie, mais c'est un endroit où on ne te respecte pas, où tu subis des vexations, où on ne t'apprécie pas du tout, ni toi, ni ton travail. Est-ce que tu resteras dans cet endroit? La réponse, elle est, c'est sûr que non. Une personne qui pourra s'échapper d'un endroit où elle travaille et qu'elle se sent mal, elle le fera. Et pourtant, ce qui t'intéresse, c'est pas qu'on t'apprécie. Ce qui t'intéresse là-bas dans le travail, quand tu vas au boulot le matin, c'est quoi? Ben, c'est de gagner ta vie, c'est clair. Mais on voit en toute objectivité dans la vie qu'une personne, n'importe qui, un homme ou une femme, n'est pas capable de se trouver dans une société qui ne l'accepte pas. Et pourtant, je répète, et pourtant, tu étais là-bas que pour travailler. Mais ça ne suffit pas. Tu étais là-bas pour gagner ta vie. Mais ça ne te suffit pas. Parce que personne ne peut être dans un endroit et rester et vivre dans un endroit où il est déprécié, où il n'est pas apprécié à sa juste valeur, où il n'est pas félicité pour son travail. Et tu n'étais pas là-bas pour ça. Tu étais là-bas que pour gagner ta vie. Et quand même. Baruch Abba. Baruch Abba.
On s'est chauffé.
Extraordinaire. Kol hakavod. Pour la réfoua chez les mains de Chaya Bat Myriam.
Amen.
Et de Batel Bat Myriam. De Tidok Ben Shani.
Amen.
Et pour
Yosef
la réfoua.
Hein?
Yosef Ben Jamila.
Amen.
C'est bien, très bien que tu sois là.
Derrière vous, vous avez
alors, Si dans un... pour ta parnassa, tu ne supportes pas qu'on te déprécie, le mariage, c'est 100%. Tu vas à un mariage, c'est 100% pour les sentiments. Est-ce qu'une personne se marie, dites-moi, est-ce qu'une personne se marie parce qu'elle aime, elle a envie de nourrir une grande famille? Bah, pas dans le rêve. On ne se marie pas pour ça. Un homme, une personne, une femme, un homme s'engage dans un mariage parce que Akadosh Baruch Hu a ancré dans l'âme de la personne le besoin de lier son âme avec une autre âme de la personne qui est en face. On se marie parce qu'on a ce besoin de lier notre âme avec celle du conjoint. Que qu'elle me chérisse, qu'elle m'aime, et que moi je la chéris et que je l'aime. Ce besoin-là, on s'engage dans le mariage que pour ce besoin sentimental. Je répète, le mariage n'a aucune autre fonction. Jamais quelqu'un va te dire, ah ben moi je vais me marier parce que j'ai envie d'avoir 10 enfants, Bli Aïnara. Les enfants c'est bien, mais tu ne te maries pas pour ça. Tu te maries parce qu'on a un besoin sentimental, et ce besoin sentimental d'être lié à l'âme d'une autre personne est un besoin que Kadosh Baruch Hu a mis dans l'être humain. Ça, il n'y a rien à faire. Et quand tu observes, et ça, mesdames, écoutez bien, quand je le dis à vous, mesdames, c'est pour vous, mais c'est pour les maris, c'est pour tous ceux qui nous écoutent. Quand tu observes le cadre, dans le cadre d'un mariage, tu es surpris de voir que beaucoup de personnes sont, comment on peut appeler ça, en sous-alimentation sentimentale. Et on observe que le conjoint ou la conjointe attend un mot chaleureux. Dis quelque chose, dis, parle, montre-lui. N'arrive pas, elle n'arrive pas. C'est très difficile. Quelle cruauté de voir cette situation. Quand on voit qu'un conjoint est assoiffé de sentiments, c'est quelque chose de terrible, et l'autre n'arrive pas à lui donner ce besoin sentimental qu'elle a, que la personne en face a besoin, ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est comme si on va s'asseoir avec un gâteau au chocolat, odorant, devant quelqu'un qui crève de faim. C'est un besoin obligatoire. Et c'est sur ça qu'on va parler ce soir. On va d'abord commencer, et vous allez me dire, mais où dans la Torah c'est marqué ça? Ça existe dans la Torah les sentiments, ça existe dans la Torah les paroles, ça existe dans la Torah qu'il faut le dire. On va commencer par étudier ce que la Torah elle nous apprend par rapport à ça. Que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans toute la vie entière. Cette faculté à ouvrir sa bouche et à dire des paroles d'appréciation et des paroles de compliment et des paroles de sentimental envers le conjoint ou la conjointe. Il faut savoir une chose. Je vais commencer. Donc par rapporter ce que la Torah nous dit sur ça. Et c'est très intéressant d'écouter. Deuxième chose, c'est que l'utilité, le bénéfice, quand il y a une énergie de compliment réciproque dans un couple, on verra un petit peu, eh bien, l'utilité, on verra un peu le bénéfice qu'on peut avoir quand on vit dans un couple où il y a cette énergie-là de compliment réciproque. Et troisième chose qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut entreprendre pour rentrer dans une énergie pareille. Ou c'est que s'il n'y avait pas dans ce couple-là des paroles, des mots, eh bien qu'il y ait ces choses-là. Le Rambam écrit, ça c'est une chose extraordinaire, le Rambam écrit dans l'introduction du Rambam dans le Perek Relek, qui est un Perek dans la Maseret Sanhedrin. Le Rambam il dit quelque chose, moi je crois que c'est dramatique. Atam Motse, le Maïmonide quand il dit des mots, c'est des couteaux. Tu trouves, tu constates, Rov Ben Adam, je crois que c'est vrai, qui suis-je pour dire que c'est vrai? Mais je le ressens ça tous les jours. Dans la communauté, et dans les communautés où j'ai été, et dans ma propre vie, moi-même, tu verras que la majeure partie des personnes, meyagrim nafshotehem vegufotehem, ils se tuent, ils se fatiguent, be'amal ou be'yegia, avec beaucoup d'efforts, she'en lema'alamehem, des fois, ils vont faire des efforts énormes. Tout ça pourquoi? Qu'aider chez Yagialo Maala Vekavod pour arriver à un statut. C'est le rêve de tout le monde. Je vais réussir dans la vie et je voudrais avoir un statut, un certain statut. Vécheïna Seuhu Bene Adam et qu'il soit important devant les autres personnes, dans lequel il vit. C'est un sentiment naturel et les gens sombrer un rêve de réussir pour que ceux qui sont autour de moi vont m'apprécier. Verana azo et nahana atma achalo mishte. Et tu dis, c'est pas un plaisir de manger, de boire ou de manger. C'est un plaisir qui se trouve à l'intérieur de l'âme humaine. Et il dit, verar ben mibne adam. Et regardez, vous allez constater que c'est vrai. Beaucoup de personnes. Mitra hakim mina gadol shebeta anu yagouf. Les personnes, des fois, ont envie de faire de grosses bêtises. Les plaisirs de la chair, les plaisirs du corps, ils ont envie, mais ils ne le feront jamais. Et il dit le Rambam, pourquoi ? Mi'ir ato, car cette personne craint. Sheyasiguhu mizeh cherpa ou boucha. De peur que si ça se sache, qu'est-ce qui va lui arriver ? La honte. Olifi shemevakesh sheyelo shem tov. Donc tu vois bien que l'honneur, le kavod, l'appréciation de la personne, c'est tellement fort, il te dit le Maïmonide, qu'une vie entière, ça peut te tenir en laisse. Le type, il a envie de faire des bêtises. Il ne les fera jamais. Pourquoi ? La chouma. La communauté, les gens, le rabbin, les copains, les voisins. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux rien faire. Et une personne, il te dit le Rambam, va être tenue en laisse une vie entière de peur que on dégrade son image. C'est-à-dire que le besoin de cette image de l'être humain est tellement fort qu'elle attrape la personne. Un, elle va le forcer à s'élever le maximum matériellement et spirituellement pour avoir l'honneur des gens avec lesquels il vit. Et deuxième chose, de ne pas faire des bêtises, car il sait qu'en faisant des bêtises, il va perdre cet honneur et pour lui, c'est épouvantable. Il y a eu des gens que quand on a atteint à leur honneur, ils ont été prêts, rendez-vous, à se suicider. Ça, il faut le savoir. En France, la chronique, ça avait dépassé la réalité quand il y a eu un ministre en France qui avait été soupçonné, le pauvre, de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il est parti, il s'est tué. Mais il est fort, on peut pas. Donc ça veut dire que c'est un besoin fondamental dans l'être humain d'être apprécié et d'être respecté. Ça, c'est la première chose que nous voyons dans le Rambam. Et sur ça, là, voilà, la feuille. D'ailleurs, nos sages nous disent Kol hamal bin penecha viru barabim, en lochelek la olam haba. Si tu fais honte à quelqu'un, le Talmud nous dit il n'a pas accès au monde futur. Qui n'a pas accès au monde futur? On sait que l'oralino, quelqu'un qui a tué une personne, il n'a pas accès au monde futur. Mais quelqu'un qui a fait honte, il n'a pas accès au monde futur. Qu'est-ce qui se passe? Le pire, c'est que même l'assassin qui a tué quelqu'un, sa neshama, elle se nettoie et après elle monte au Olam Haba, au paradis. Mais celui qui a fait honte à quelqu'un, lui n'ira pas au paradis. Qu'est-ce qu'il y a? Le Maharal de Prague dit des mots terribles, Mishum, parce que Rotseyar, l'assassin, atteint le corps de la personne. Et celui qui fait honte a atteint l'âme de la personne. C'est que vous impossible d'accepter une chose pareille, que l'âme de la personne, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dramatique, qui est terrible. Le Rambam ramène dans Ilchot Deot, dans le Perek Vav. Le Rambam dit une chose qui est, je crois que c'est très important de le savoir, mitzvah. Donc il y a une mitzvah de la Torah. Quand c'est marqué mitzvah, ça veut dire que c'est une halakha. Une mitzvah de la Torah, al kol ha'adam, pour chaque homme. Le Ehov et kol echad ve'echad mi Israël, ke gufo. D'aimer chaque personne, chaque juif, comme son propre corps. Chez Neymar, comme il est écrit, Ve'ahavta le'ri'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'efficar. Donc, qu'est-ce qui en découle, il dit le Rambam? Alors, j'aime tout le monde.
Que tu t'aimes, toi, d'abord.
Alors, le Rambam, il dit, non, mais dans l'expression d'aimer l'autre, le Rambam a trouvé qu'une seule chose. Moi, j'aurais dit, ben, aimer l'autre, va l'aider, va lui acheter à manger, va lui faire des trucs. J'en sais rien, moi, quoi. Aimer l'autre. Le Rambam, il te dit, l'efficar, c'est pour cela. Tsarich les saper bishvacho. Tu dois, les saper bishvacho, ça veut dire donner des éloges, lui donner des éloges, l'élever par des paroles. C'est ce que lui, il appelle mitzvah de la Torah. La mitzvah de Ve'ahavta le'ra'acha kamocha, c'est de trouver des éloges sur les personnes, de les complimenter, de les apprécier. Il en sort d'ici une chose qui est terrible, c'est que le Rambam, il te dit que quoi? Que comme c'est une mitzvah de la Torah, ça veut dire qu'après 120 ans, on va dire à une personne, dis-moi, est-ce que tu as complimenté ton épouse? Est-ce que tu as complimenté ta femme? Est-ce que tu as donné des shvachim et des éloges? Oui ou non? Ah bon, je pensais que c'était un truc en plus dans un couple. Mais je ne savais pas que c'était une mitzvah de la Torah. Le Rambam te dit, mitzvah l'eshabéach. Il y a une mitzvah de donner des éloges et de complimenter. C'est une halakha méforeshet dans le Rambam. La Gemara dans Baba Batra. Daftet, juste pour voir un petit peu comment la Torah, elle prend cette notion de compliment envers les autres. La Gemara, elle dit dans Baba Batra, Daftet. Elle dit, la Gemara, une chose, ça va être très court, mais vous allez voir. La Gemara dit, Amar Rabbi Yitzhak qui dit, tout celui qui donne une prouta, une piécette en cuivre à un pauvre, mitbarech beshesh brachot, il est béni par 6 bénédictions célestes. Les brachot exceptionnels, la donné la tzedaka. Veha mefayeso bedvarim, et celui qui réconforte un pauvre par des paroles, mitbarech beyud aleph brachot, pratiquement le double, il est béni de 11 bénédictions célestes. Il ramène ici le Maharsha. Néanmoins, le consolateur est... Tu vas me dire pourquoi? Ben, je nourris pas quelqu'un avec des paroles. Il y a un pauvre, il est là, il demande de l'argent. Il a faim. Toi, tu viens, tu lui dis, ah, quand la cave, t'es un mec extraordinaire, je vais te renforcer. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger. Alors, il te dit, bien sûr que la tzedaka, il faut la donner. Mais il te dit, néanmoins, le consolateur est plus généreusement récompensé que le donateur. Car le consolateur fait don de lui-même. Tu viens, tu le réconfortes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire sortir une partie de tes forces, une partie de ce qu'il y a de plus beau de toi par ta parole, et tu vas lui donner ça à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc tu vois bien que la Gemara aussi, dans Baba Batra, elle a cette notion-là de ça veut dire que le réconforter, c'est une chose qui est fondamentale. La parole, tu réconfortes quelqu'un, tu viens d'accomplir une mitzvah extraordinaire de la Torah. Mais pas seulement ça. Si on demande, regardez, on va rentrer dans le vif du sujet. Si on demande à une femme, tu cuisines à la maison, elle va te dire oui. Tu cuisines pour ton mari? Bien sûr. Elle va te dire bien sûr. Et quand tu lui donnes ce plat-là à manger, est-ce que ce plat est accompagné d'une parole gentille, réconfortante, mon mari, ou bien tu lui donnes ça, tu lui poses l'assiette, et des fois tu lui poses même sans rien lui dire, ça veut dire que tu es en train de lui montrer que c'était difficile pour toi de lui apporter cette assiette. Alors, je ne comprends pas, tu as préparé à manger pour qui? Pour ton mari. On est d'accord? Pourquoi ça ne peut pas être accompagné d'une belle parole? Le contraire, un homme, il travaille, il amène la parnassa. Sa femme, elle vient, elle lui demande de l'argent. Il lui donne, il lui dit, eh, mais hier aussi tu m'as demandé. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné tant et tant hier. Mais il va lui donner. Maintenant que tu dis à cet homme-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai travaillé, je gagne ma vie, j'ai mon argent, je le prends et je le donne à ma femme. Pourquoi ça ne peut pas être accompagné? Ah là là, j'attendais ce moment, quel kiff que tu me demandes comme ça de l'argent avec plaisir. Prends ce que tu veux, va t'acheter. Ça fait rire, il en sort d'ici une chose, et c'est ça qui est dramatique. C'est que de travailler et de donner à l'autre le fruit de ce travail, on peut le faire. Mais de parler et de dire quelque chose qui est beau, qui est réconfortant, ça c'est difficile, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire, c'est très difficile. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit que de parler et de réconforter et de complimenter et d'encourager, c'est quelque chose qui est dur. Et c'est pour ça que c'est une grande mitzvah. La Gemara dans Masechet Ketuvot, et je termine avec ça la notion. La Gemara dans Masechet Ketuvot a dit, vous savez qu'à l'époque, quand il y avait une mariée, on dansait devant la mariée. Et pas seulement quand on dansait, les chachamim, quand ils dansaient, ils disaient des belles paroles devant la mariée, des shvachim, ça veut dire des éloges sur la mariée. Et la Gemara a dit, Ketzad meragdim lifne akala. Comment est-ce qu'on danse devant la mariée? Bet Shamay Omri, Bet Shamay disent Kala Kemochei. Selon ce qu'elle est. Enfin, selon ce qu'elle est, ça veut dire quoi? Et si elle est moche? Alors on dit rien. D'après Bet Shamay, on dit rien. Eh ben tu dis rien. Et Bet Hillel, alors là c'est dramatique, ils disent Kalana Avarasuda. Il faut dire qu'elle est belle et qu'elle est gracieuse. Amoulaem, Betchama, il est Betilel. Betchama, ils ont dit à Betilel. Arecha et Arigeret ou Soma. Si elle boitait ou elle avait un œil en moins. Omrim la Kalana Avarasuda. Tu vas lui dire qu'elle est belle. Tu vas danser, tu vas dire qu'elle est belle. Ve'atora Amra, Midvar Sheker Tichak. Alors que la Torah l'a dit qu'il fallait s'éloigner de mensonges. Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel a dit à Bet Shammai, les divrechem d'après vos paroles. Donc, d'après vos paroles. Alors, s'il faut, ben, Michel Akar, Mekahara Aminashouk, Yeshabeche Nouberenav, ou Yegane Nouberenav. Donc, dans ce cas-là, Bet Hillel dit à Bet Shammai. Alors, donc, ça veut dire que si quelqu'un achète une maison, tu rentres à l'intérieur de la maison, il est tout content, il t'a reçu, il vient d'acheter la maison, tu dis, elle est moche. Elle est moche. Oh, c'est horrible. Oh, comment c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce qu'on va faire comme ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il peut pas se débarrasser de la maison maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Mikan. Et la Gemara termine. Et c'est ça la halakha. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit elle est moche ou on dit elle est belle? Amrou Chachami. Nos sages ont dit. Le olam tehe dato sheladam me'orevet imavriot. Il faut toujours que l'être humain soit avec les autres. C'est-à-dire, la rasot l'école Adam kirtsono. Tu dois faire à l'autre sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire sa volonté? Comme ce type il s'est marié avec cette femme, c'est que ça veut dire il aime cette femme. Tu dois lui donner des éloges sur sa femme et lui trouver, parce que s'il s'est marié avec elle, c'est que vraiment il a trouvé gracieuse. S'il a trouvé gracieuse, toi tu dois dire qu'elle est gracieuse. Et tu rentres dans une maison, tu dois dire elle est belle. Tu dois dire elle est belle. C'est une nécessité, c'est une halakha que la Gemara a amenée. Il n'y a rien à faire. Et tu ne diras pas, entre guillemets, tu ne diras pas ta vérité à toi. Parce que c'est pas ta vérité qu'on va entendre. On va entendre la vérité de l'autre. C'est quoi la vérité de l'autre? C'est que lui, il est content de s'être marié avec cette femme-là. Donc tu dois lui dire qu'elle est belle. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la vérité. En deux mots, tu dois dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Tu dois dire à ta femme ce qu'elle a envie d'entendre. Tu dois dire à ton mari ce qu'il a envie d'entendre. Bon, on a appris que d'après la Torah, c'était d'une importance fondamentale de donner des compliments. Très bien. En quoi les compliments contribuent dans un couple? Allez, concrètement. Pour beaucoup de personnes, la conception du mariage, c'est d'habiter dans une même maison, d'avoir des enfants, d'amener la parnassa. C'est quoi le mariage? On s'est marié.
Une association.
On est une association, on est ensemble, on vit dans la même maison, on amène des enfants, on amène la parnassa, on a un conjoint. On vit quoi. Tout cela, écoutez bien ce que je vous dis, c'est un complément dans un mariage. Les enfants, la maison, la parnassa, tout ce qui va autour, c'est un complément d'un mariage. Le mariage, c'est ce qu'on appelle l'amour réciproque. C'est le lien sentimental. Et simplement, et vous allez le voir, il n'y a que ça dans le mariage, il n'y a rien d'autre. Les sentiments, les liens qui se tissent entre le couple, les compliments réciproques, et tout le reste, c'était obligatoire que pour qu'il y ait un homme et une femme qui vivent ensemble, il fallait qu'on fasse une maison. Mais la maison et tout ce qui va avec dans la maison, c'est un complément dans le mariage. Et d'ailleurs, une femme, une fois, elle est venue chez un rave qui s'occupait comme ça de tous les problèmes de couple. Et elle lui a dit, je suis mariée, ça fait des années, et je n'arrive pas à convaincre mon mari dans rien du tout. Tout ce que je lui dis, il ne le fait pas. Tout ce que je lui dis de ne pas faire, eh bien, il le fait. Je n'ai pas arrivé avec lui à rien du tout. Question que nous tous on a sur nos maris, sur nos femmes. Et il dit que ce rave-là lui a demandé à cette femme, est-ce que ton mari pense que tu l'estimes et que tu le considères, oui ou non? La réponse de cette femme a été, non, je ne suis pas sûr qu'il le sait. Je ne pense pas que je lui ai dit, que ça fait très longtemps que je ne lui ai pas dit que je le considérais. Et ce rave lui a répondu, c'est que, une chose très simple, si une voisine qui ne te considère pas du tout te demande de sortir avec elle pour aller se promener, est-ce que tu sortiras avec elle? Elle ne te considère pas du tout. Bien sûr que non, jamais. Bien sûr que non. Ce qui veut dire que quoi? Que la considération, écoutez bien mesdames, et c'est ça qui est dramatique, elle crée des liens. Il y a une seule façon de créer des liens dans un couple, c'est par une seule chose, qui s'appelle la considération mutuelle. Je répète, tu rentres dans un mariage, on t'a invité, mais on n'a pas mis les noms sur les tables. Il y a des fois des mariages où on s'assoit librement où on veut. Écoutez bien, votre intuition va vous guider vers une table où il y a là-bas deux ou trois personnes qui sont déjà assises et que vous savez qu'ils vous considèrent. Et vous n'irez pas vous asseoir dans une table où vous voyez qu'il y a des gens que vous connaissez qui n'ont aucune considération pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le lien qu'on a envie de tisser avec quelqu'un doit passer obligatoirement par la considération qu'il y a entre ces deux personnes. Et il disait lui-même, ce Rav-là, c'est Rav Simcha Cohen, un des grands spécialistes dans ce qui est dans le couple, qu'un couple, que minimum le mari ne dit pas 5 compliments à sa femme dans la journée, et une femme qui ne disait pas 5 compliments à son mari dans la journée, on n'est pas considéré marié. On n'est pas considéré marié. Alors on habite dans la même maison, on amène des enfants, on amène la part d'Assa, mais on n'est pas considéré marié. Parce que le mariage, c'est des sentiments, des liens qui se créent entre une neshama, une demi-neshama, qui doit s'attacher avec la deuxième partie d'une autre neshama. C'est ça le mariage. Et combien que c'est dommage que des personnes perdent leur vie et ils ne sont pas considérés mariés. Deux personnes, écoute, pour comprendre ce que je vous dis, deux personnes qui ne s'aiment pas, ils sont assis à la même table. Est-ce qu'on appelle qu'ils sont proches l'un de l'autre? Pourtant, ils sont assis un à côté de l'autre. Ils ne sont pas proches du tout. Pourtant, on verra que deux personnes, que l'un vit à Tel Aviv, l'autre à New York, mais qui s'aiment, comment on appelle ces gens-là? Ils sont proches. C'est-à-dire que ce n'est pas la distance qui fait. Ça veut dire que c'est un lien qui se tisse. Ce lien ne pourra... Il lui a dit ce rabbin à cette femme, comment tu veux que ton mari accepte de faire ce que tu lui dis quand préalablement il n'y a aucun lien qui est tissé entre vous deux et que pour que ce lien se tisse, il est obligé de passer par ce qu'on appelle des compliments réciproques, une construction mutuelle de marmahot, ce qu'on peut appeler de marmahot, qui veut dire des compliments qui sont donnés l'un à l'autre. C'est évident, on est attiré vers celui qui nous apprécie. On est attiré vers celui qui nous apprécie. C'est quelqu'un qui ne nous apprécie pas, alors on peut être à côté de lui, mais on n'a aucun lien avec lui, parce qu'on n'a aucune appréciation de sa part. Encore une chose, tout ce qui va faire que ce qui est difficile ou facile passera obligatoirement par la considération. J'explique. Quelqu'un qu'on n'aime pas du tout, il va nous demander un tout petit service. On aura des difficultés à lui faire. On ne voudra pas lui faire. On n'a pas envie de lui faire. Par contre, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous apprécie, quelqu'un qui nous félicite, quelqu'un qui nous donne des compliments, il nous demandera quelque chose de difficile. On ira le faire. Donc ça veut dire que ce n'est pas la lourdeur de la tâche qui est par elle-même lourde ou légère, mais c'est par rapport au lien qu'on a avec la personne qui est en face de nous. Et que si on a en face de nous une personne qui nous apprécie, ça sera facile pour nous de faire pour elle. En résumé, les personnes ne se lient qu'avec d'autres personnes qui les apprécient. Et si on n'a pas une appréciation de la part de la personne qui est en face de nous, des compliments, quelque chose, des sentiments, des paroles, alors on va vivre avec une autre personne. Mais on n'est pas marié, puisque tout le but du mariage, on l'a expliqué depuis le début, est venu que pour une seule chose, rechercher des sentiments, rechercher une force que l'autre va nous donner. Et si à un moment donné, on arrête tout ça, c'est un grand problème. On va voir encore quelques raisons, encore d'autres, quelques-unes. On va citer des raisons que, on va voir que justement les appréciations, c'est l'essentiel dans un mariage. Si on demande à une personne, à quelqu'un, pourquoi tu es marié? Une fois on a demandé à quelqu'un, pourquoi tu es marié? Il a dit, je suis marié parce que je vis avec une femme, parce que j'ai des enfants, parce qu'on s'est habitué, parce que la société accepte difficilement les divorcés, parce que je suis bien comme ça, je reste comme ça. Et on lui a dit à cette personne, on lui a demandé, on ne t'a pas demandé pourquoi tu ne divorces pas, on t'a demandé pourquoi tu es marié. David Amelech, il a dit une chose. David Amelech, il a dit, Motsi Asirim Bekoshamot. Traduction, Akadosh Baruch Hu, il a mis des menottes dans un couple. C'est vrai, et on est attaché. Et souvent, on est attaché, on reste parce qu'on est attaché, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la vie, parce qu'on est toujours ensemble comme ça, puis il n'y a rien à faire d'autre. Et le problème, il est, et c'est ça ce que nos sages nous apprennent à travers tous les textes de la Torah, c'est que qu'est-ce qui va permuter qu'on va passer de menottes à une étreinte d'amour avec la personne avec qui on vit. Moi, je suis menotté, c'est comme ça, je suis attaché, je suis attrapé, je peux rien faire, je subis la vie. Non. Si on peut passer à quelque chose qui va... Le contraire, comment est-ce qu'on fait? Rabota, il faut savoir, il n'y a pas d'alternative, je répète, à la considération réciproque. Il n'y a pas d'alternative. Ni la voiture, ni la maison, ni de l'argent. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'alternative. Au mahmaot, à ce qu'on appelle la considération réciproque, à féliciter l'autre, il n'y a pas d'alternative à ça. Et vous allez voir beaucoup de personnes, ils sont mariés, mais ils vivent chacun dans son monde à part. Il n'y a rien. Il n'y a pas un lien qui est tissé. Et le lien ne pourra venir qu'à partir du moment où il y a un dialogue de considération, d'appréciation mutuelle entre les deux. Et on va voir que c'est ça un peu le gros problème qu'on peut rencontrer malheureusement souvent. Pas seulement ça. Les considérations, les compliments amènent à faire quelque chose. Amène l'autre à bouger. Je l'ai dit une fois, il y a des personnes qui peuvent avoir à la maison une ampoule qui est cassée. Le gars, il va rester 2 mois, sa femme, elle va lui dire. Et pourquoi quand sa mère, elle va lui demander, il va aller tout de suite, il va aller le faire. Behemet, celui qui répond, ouais, parce que c'est sa mère, parce qu'il a peur de sa mère. Non. Donnez-moi une réponse. Pourquoi à la maison, ouais, je vais le faire.
Il a été habitué à répondre.
Non, il n'a pas peur. Non,
c'est pas la peur.
La mère, quand son fils va lui faire quelque para, mexico, para, il a changé l'ampoule, presque elle va dire que son fils est un ingénieur de la NASA. Mon fils, il a fait une femme. Et c'est une réalité, malheureusement, c'est pas méchant, c'est une réalité. Il va changer, par exemple, j'y mets l'ampoule, ça peut être autre chose. Ah, sauf. Voilà, sauf. Il est arrivé le temps, heureusement. Et maintenant que tu as avec les chaînes, s'il te plaît, tu vas encore changer l'autre ampoule. Voilà. Où il y a des compliments, il y a en face une personne qui aura envie de faire plaisir. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est terrible. D'ailleurs, des fois, on va se battre avec le conjoint. Ou la conjointe, on va se battre pour quelque chose. Alors que tout problème, c'est pas parce qu'elle a une tête dure, ou il a une tête dure, ou il est fainéant. C'est parce qu'il manque, l'essence à mettre dans ce moteur. Et obligatoirement, c'est un yesod que je vous dis, c'est ce qu'on appelle les compliments qu'on peut donner.
Des fois, c'est dur de faire des compliments pour des choses qui sont normales. Nous, on ne fait pas ovation quand on fait toute la maison et tout. T'as pas envie de l'applaudir quand il sort une poubelle, que ça fait 5 jours que tu lui dis de sortir, quoi.
Eh ben si, madame.
On va. Très bien.
C'est comme ça que ça commence.
C'est une très bonne remarque. On va voir Bezrat Hashem dans 2 minutes. Juste une parenthèse. Dans une maison où c'est que le mari complimente sa femme et il lui dit des belles paroles et vice-versa. C'est-à-dire que on engage dans cette maison une énergie positive. Les enfants qui sortiront de cette maison auront un regard positif sur la société. Je répète, une maison où du matin jusqu'au soir, la femme dit à son mari, t'es comme ça, et lui, il lui dit, toi, t'es comme ça. L'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la société, le monde qui est sa société à lui, c'est tout négatif. Et vous allez voir, PMET, vous allez voir des personnes que il sort dehors, tu lui dis, il fait beau, tu dis, il va pleuvoir. T'as vu, c'est moche, j'aime pas. Il va rentrer à la synagogue, il va dire, ils ont commencé 2 minutes avant, on ne peut pas attendre. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, tu vas les voir, ça râle. Des personnes qui ont vécu dans une maison où ça a été négatif, l'un contre l'autre, négatif, il va sortir de là-bas avec une vision. Donc, c'est une parenthèse que je fais, mais elle est tellement importante et elle est fondamentale pour que les enfants... Après, tu verras, il y a des enfants qui sont joviales, où il y a des personnes qui kiffent. Tu vas les voir, ils rentrent à la synagogue, ils amènent de la lumière avec eux. Ils rentrent partout, ils amènent de la lumière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont positifs, ils sont contents, ils sont bien. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient, c'est qu'ils ont vécu dans un environnement où c'est qu'on voyait l'autre positivement, quand la cavode, extraordinaire. Oh là là, c'est super ce que tu as fait. Assez... Et donc, il va continuer lui aussi à vivre dans cette chose-là. On va demander beaucoup de couples. Ça, c'est dramatique, mais c'est une réalité. Et on verra pourquoi aller. Ils ont demandé à un panel de plusieurs centaines de couples, mariés depuis plusieurs années, si c'était à refaire, auriez-vous choisi le même conjoint ou la même conjointe avec laquelle vous êtes maintenant ? 80% des personnes ont répondu non. C'est pas méchant. Hein? Non, c'est pas méchant. Hein? Non, c'est pas méchant. Je répète. Après, je crois que... Non, pas du tout. On est, Myrilla, on est différent de nos conjoints ou de nos conjointes. Ça, il faut que ça soit clair. Ah, je suis dégoûté de ma vie. Je pensais prendre quelqu'un qui me ressemble. On sera obligatoirement différent de nos conjoints. Ça n'existe pas. Je vous dis bien. Ou presque. Et puis d'ailleurs, heureusement que la personne qui est en face de nous ne nous ressemble pas. Ça aurait été une tristesse extraordinaire. Le mariage, c'est pas entre deux personnes qui sont matimim. Comment on dit matimim qui se ressemblent? Non. Le mariage, c'est entre deux personnes qui ne se ressemblent pas, mais qui vont créer des conditions pour rester, entre guillemets, pour être liées. De la même façon que le compliment va rapprocher la bicorette, ce qu'on appelle la critique, elle va éloigner. Je répète, le mariage est fait avec des personnes obligatoirement qui ne nous ressemblent pas. Ah bon ? Hey, j'ai pas remarqué ça quand je l'ai connu, le garçon ou la fille. J'ai pas remarqué ça. On remarque rien. Ben, on rachète d'ailleurs. Mais quand on est marié, on dit c'est pas possible. Mais c'est pas moi, c'est l'opposé. Et moi je suis refif, elle est mita. Et l'autre il va dire, et moi je suis comme ça, et lui, hein, il bouge pas. Et tu vas dire, je peux pas vivre avec un type comme ça, c'est quoi ça? Il est différent totalement de moi. Et parce que c'est comme ça que ça doit être.
Mais pourquoi?
Parce que justement, dans la différence de l'autre, quand il y aura un lien entre deux personnes différentes, l'un va complémentariser ce qui manque chez l'autre. Mais si tu restes dans la critique, alors tu auras quelqu'un de différent complètement à côté de toi qui va te prendre ta tête et que tu vas dire j'en ai marre de lui. Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas eu ce lien qui s'est fait par justement ces paroles, ces compliments. Et je répète, il ne peut pas y avoir de lien avec quelqu'un qui est déprécié. Si j'ai quelqu'un devant moi qui toute la journée, il me dit des choses, je ne veux pas de contact avec lui. Je ne veux pas de contact avec lui. Si vous avez votre mari qui toute la journée vous balance des trucs, vous ne voulez pas de contact avec lui. Et lui, la même chose. Et avec qui on est attiré? Chez les personnes que quand ils te voient, ils te disent « Waouh, t'es belle, t'es ci, t'es là, t'es machin. » C'est normal. C'est normal, c'est un besoin. Donc je répète, de la même façon que le compliment va attacher deux personnes qui sont totalement différentes, malheureusement la critique, elle va complètement éloigner deux personnes. Et pourquoi c'est difficile de donner des compliments?
Si c'est mérité, on les aime, mais si c'est mérité...
Hein? Non, honnêtement, c'est difficile de donner des compliments. On l'a dit au début, tu peux donner à ta femme, à ton mari de l'argent, tu peux donner tout, tu peux lui faire à manger. Mais que ça soit accompagné, mais puis qu'encore, que ça soit accompagné avec un mot gentil, lama makara. Qu'est-ce que ça veut dire le lama makara? Ça veut dire quoi? Première raison, et malheureusement c'est un drame, les hommes ou les femmes qui ont vécu dans des maisons où on ne parlait pas et on ne donnait pas de compliments, ils n'arriveront pas à le faire. Elle m'a la sonde. Ne vous cassez pas la tête. Ou, à moins que c'est un grand travail. Vous pouvez avoir devant vous un homme très gentil, extrêmement gentil, mais il n'arrivera jamais à dire un compliment. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a jamais vu. Et il n'a jamais vu qu'est-ce que ça pouvait faire sortir de dire un compliment, donc il ne sait pas le faire. Il n'aura pas de compliment. Il y a des gens comme ça. Deuxième raison. Merkila, j'ai dit une chose. Un couple qui n'ont pas réussi à tisser un lien par des compliments, ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Puisque le yesod du mariage, c'est de lier deux neshamot. Sinon, ben on vit ensemble.
Alors, je reviens sur un cours qu'on avait déjà fait ensemble. Vous avez dit, là, par exemple, une personne qui n'a pas vécu ça chez elle, elle ne pourra pas le reproduire. Alors que justement, dans un autre de vos cours, vous avez dit, il y a des personnes qui n'ont pas vécu certaines choses, comme les chibukim, ils peuvent
travailler.
C'est un travail. C'est un travail
non,
qui a été fait.
Non, un travail. Ils veulent pas reproduire justement.
Très bien. Donc ils ont une prise de conscience. Ils ont une prise de conscience par rapport à ça. Il y a des hommes, il y a des hommes ou des femmes qui n'arrivent pas à dire je t'aime.
Oui.
Ça c'est la première chose. Deuxième chose. Mechila, pardon.
Ou alors il y a aussi beaucoup, il y en a qui sont très timides et très...
Ce mot de très timide ne veut pas dire grand-chose dans un couple. Il y a des difficultés. Il y a des personnes qui vont vous dire, c'est quand la dernière fois que vraiment t'as donné un compliment, et on va définir c'est quoi un compliment. Mais, je ne sais pas moi, je ne sais pas quand la dernière fois. Ah, c'est difficile hein, en ce moment.
C'est savoir
pour donner
un... quand quelqu'un il fait pour nous quelque chose de normal, mais que pour lui c'est un effort.
Oh, déjà. Déjà. Donc, très important ce que vous venez de dire. Ne pas prendre quelque chose qui est donné par l'autre ou qui est fait par l'autre comme mes mouvan, mes élaves. C'est normal. Oh, c'est normal. Elle a fait à manger? Non, c'est pas normal. Tu trouves ton linge repassé, tu trouves ta chambre propre, tu trouves tes habits. C'est pas normal. On va dire merci. On va féliciter l'autre. Il amène les courses. Il monte à la maison avec les courses. Même quand c'est... Non, c'est ça le problème. On va le voir. C'est que les compliments, ça se construit. Et on va... Ça commence par quoi? Par le quotidien. Dans le quotidien, qu'on a qu'à votre ça. Extraordinaire. C'est très bien. C'est pas suffisant. On va le voir que c'est pas suffisant. Mais il y a une chose fondamentale, c'est que pas tout ce qui vient est normal. On fait des compliments pour ça aussi.
Mais attendez. On fait des compliments quand on demande la chose. Il a fait mes odes.
Émilie est en train de dire, et on va le voir tout de suite. Des fois, on a l'impression que de donner des compliments, c'est quand on a envie de recevoir quelque chose. Par exemple, deux minutes. Il y a ce qu'on appelle le symptôme de la pomme. Les psychologues parlent beaucoup de ça. C'est quoi? C'est très simple. Hein?
La carotte?
Non.
La pomme.
On l'appelle ça la pomme. Quand vous croquez une pomme, combien de temps vous faut-il pour que dans vos papilles, vous avez le goût de la pomme? Une fraction de seconde, pourquoi? Parce que, au fait, le goût de la pomme est déjà à l'intérieur de votre subconscient. Je continue. Un fruit que vous ne connaissez pas, vous le mangez, ça met du temps avant que vous appreniez. Le goût, il ne sort pas tout de suite.
C'est dans,
s'il y a dans le subconscient, ça sort tout de suite. Ou bien, un fruit que vous avez mangé une fois dans un endroit qui vous avait fait un choc, qui avait eu un choc dans cet endroit et vous avez mangé ce fruit. Quand vous mangerez ce fruit une autre fois,
ça rappelle
ce choc-là ou cet endroit. Et on a ce même problème. J'arrive à ce qu'elle a dit, Émilie. Quand on fait des compliments, on a l'impression que c'est un peu faux ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'en principe, on le fait quand on a besoin de quelque chose. Quand la femme, elle a besoin du mari de quelque chose, d'un seul coup, « Ah, mon chéri, machin !» Alors, ou le contraire, quand on a besoin, et c'est normal, quand on a besoin de quelque chose, même de quelqu'un d'étranger, alors on le félicite et on est là et on lui dit « Oh là là, c'est bien ça, ça c'est bien !» Parce qu'on a derrière ça la tête, on a une idée qu'on a besoin de lui. Alors,
alors, il faut le faire deux jours en avance.
Si on commence à apprécier et à complimenter quelqu'un dans un moment où on n'a pas besoin de lui, même dans un moment où on aura besoin de lui et on lui fait des compliments, il y aura une certaine sincérité à l'intérieur de ça. C'est vrai que dans notre subconscient, tout de suite, quand on parle de compliments, on parle de « je vais prendre quelque chose de l'autre ». Mais si tu le fais tout le temps, même dans un moment où tu n'as pas besoin de lui, que ça devient quelque chose qui est instauré dans ton couple, même si un jour tu as besoin de quelque chose et que tu vas féliciter et complimenter la personne qui est en face de toi, mais c'est pas grave, parce que de toute façon c'est devenu une habitude. Il faut savoir une chose, il y a une concurrence cachée dans un couple. Qui est le meilleur? Elle m'a l'arçon. C'est pas par méchanceté. Hein. La preuve, je peux vous dire une chose, c'est facile, même pour celui qui a des difficultés à donner des compliments, c'est facile de le donner à un enfant. La main. Oh, t'es beau, t'es mignon. Me dis pas, c'est moi ta femme. Parce qu'un enfant, c'est pas un concurrent. Il y a une concurrence dans un couple aussi, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, à Dieu ne plaise, à quel moment on dit des éloges sur une personne? Ouais, ouais. Pourquoi? Cette même personne, si elle était à côté de toi, ça m'aurait étonné que tu... mais oui, parce qu'on a, parce qu'il est plus concurrent avec nous. On n'a pas de difficulté à le faire. Oui, c'est vrai, ça existe. Et donc, on a l'impression que si on va faire des compliments, qu'est-ce qu'il y a? Il va me monter dessus. Voilà, on est dans la concurrence. Ah non, si je donne des compliments, ça va me retomber dessus. Et c'est faux, parce que c'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre alternative pour qu'un couple soit considéré un couple marié. Il n'y a rien à faire. Ça devra passer que par ça. Une construction de « je suis là à construire l'autre, à lui donner ». Alors, il faut savoir une chose. Il y a beaucoup de fois, et c'est arrivé malheureusement beaucoup de fois, que dans un couple, il y a un homme qui va donner des compliments à sa femme, ou vice-versa. Et tu verras qu'ils vont dire, non, on ne reçoit pas de compliments, c'est pas vrai. La réponse, elle est, comment c'est possible une chose pareille? C'est pas un menteur, elle ne ment pas, il ne ment pas. Lui, il va te dire, mais si, ce matin, je lui fais des compliments. Qu'est-ce qu'elle dit que je ne lui ai pas fait des compliments, quoi? Il faut savoir une chose. Tu verras souvent une personne, un homme ou une femme qui va te dire, moi, je veux quand même comme je suis. Je veux qu'on m'aime comme je suis. Ça veut dire quoi? Que tu donnes des compliments sur les points forts de la personne qui est en face de toi, il n'a pas besoin de toi. Que ton mari va te dire, oh là là, qu'est-ce que c'est bon le repas. Tu n'as pas besoin de ça, tu sais déjà que tu cuisines bien. Ou par exemple, une autre qualité que tu as. Et s'il te donne des compliments sur ça, ça ne te touche pas. Sur quoi ça touche une personne? Sur ses points faibles. Eh, tu sais quoi, quand la cabane, là, je suis épaté ce que tu as fait. Là, vraiment, je suis épaté. Eh, je ne m'attendais pas à ce que tu allais faire cette chose-là. C'est extraordinaire. Sur ça, on est touché. Donc, cibler les compliments, mais c'est très important. C'est très important, c'est fondamental. Quand tu vois des personnes qui vont te dire, on vit dans la même maison, on subit, on est là, on ne sait pas. On est là, on est attaché, comme il a dit David Ameller. On est attaché avec des... Alors que ce n'est pas ça le mariage du tout. Le mariage, c'était parce que j'avais besoin de recevoir de l'autre ses compliments, ses appréciations, de me dire, je veux qu'il me dise. Et c'est ça ce qu'on dit. Je veux que tu m'aimes comme je suis. Qu'est-ce que ça veut dire comme je suis? Ça veut dire que je veux que tu m'aimes dans mes points faibles. C'est ça le but d'un mariage. C'est pas que tu m'aimes dans mes points forts. Un homme qui va dire à sa femme qu'il est une grosse businessman, il va lui dire quand la cavotte est une businessman de folie. Elle n'a pas besoin de ça, elle le sait dehors déjà. Elle, ce qu'elle a besoin, c'est que dans ses points faibles, lui, il lui donnera ses appréciations. De dire à une femme, c'est bon, t'as fait un bon repas, c'est un peu de dire, t'as un bon cheval de course. Ça, c'est pas ça des compliments. C'est sur ça, il chiote. C'est ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. C'est sur ses midotes, tovot, ses bonnes midotes à elle. C'est sur ça que l'appréciation elle doit être faite. Sur l'intérieur de la personne. De trouver les qualités. Une chose. Hein. Un homme qui va dire à sa femme ou une femme qui va dire à son mari tous les jours. T'es hamar, t'es pas intelligent, t'es pas intelligent, t'es incapable, t'es incapable, t'es incapable, t'es incapable. Vous savez qu'est-ce qui se passe à la fin? Allez, parce qu'à force de le dire, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il est convaincu. Et si ce mari ou cette femme va dire tous les jours à sa femme, t'es comme ça, t'es extraordinaire, t'es extraordinaire, t'es extraordinaire, à la fin, il va le croire. À la fin, ça va être à l'intérieur de lui.
C'est pareil avec les enfants.
Aussi, aussi. Une dernière chose. Celle-là, elle est plus ciblée sur les femmes que sur les hommes. Je suis désolé. Peut-être que vous allez me dire que je me trompe, mais j'ai réfléchi à ça. Comment on appelle ça? De détruire, pas de détruire, non, c'est un trop grand mot. De casser, de briser la volonté du mari quand il a envie de donner des compliments. J'explique. J'explique. Une femme, elle reçoit un cadeau. Ça, c'est plus chez la femme. Ouais, j'aime pas tellement ça. Tu sais qu'est-ce qui se passe à la fin? Un cadeau. T'as fait ça? Ouais, bof. Ouais, c'est bien. À la fin, le mari lui-même, comme il sent qu'il n'est pas apprécié dans les choses qu'il fait, tu lui enlèves l'envie
de recommencer
cette chose-là. Ça veut dire que le moteur de beaucoup de problèmes dans une maison, à un mari qui est inactif, à un mari qui ne veut rien faire, un mari qui ne félicite pas, il faut essayer de faire entrer cette énergie et de se dire, je dois m'habituer à la félicité, à être en éveil sur les qualités intérieures de cette femme ou de ce mari qui sont en face. Mais je vous le dis, mesdames, les femmes, on sait toujours que les femmes se plaignent de ne pas être, de ne pas recevoir des compliments. Mais il y a l'autre côté aussi. Il y a l'autre côté aussi. Et un couple ne peut pas vivre s'il n'y a pas ça. En tout cas, un couple cesse de vivre à partir du moment où ça n'existe plus ça dans ce couple. Et je répète, c'est très difficile de le faire. Et il y a des difficultés de le faire. Parce qu'on a peur. Parce qu'on n'a pas reçu l'éducation comme ça.
C'est pas naturel.
Parce qu'on s'est dit, ouais, c'est du mytho si on le fait. Parce qu'en principe, on a ça. Mais c'est pas grave. Une chose, si ça se fait, et encore, et encore, et encore, un jour on le fera, même s'il n'y a aucun intérêt. Et vous allez dire, qu'est-ce qu'on va gagner de ça? On va gagner de ça une chose on va gagner de ça. C'est quand des fois on voit des couples modèles, un lien entre un homme et une femme, ça existe, on en a vu pas mal, une complicité, un amour total. Mesdames, ça ne vient pas comme ça. Ça se construit et ça s'arrose tous les jours. Par quoi? Tu rentres à la maison le soir, comment tu es reçu? S'il est bien reçu, ce monsieur ou cette femme, il a envie de rentrer dans cette maison. Mesdames, je suis désolé de vous dire, c'est que quelqu'un qui ne reçoit pas des appréciations à l'intérieur, il va les chercher dehors. Parce qu'il a besoin. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'on ne peut pas vivre sans ça. Parce que c'est impossible. Et encore une fois, dans une maison où on accable l'autre, on étouffe. On détruit. Et personne dans le monde veut vivre avec quelqu'un qui l'accable du matin jusqu'au soir. C'est une réalité. On ne peut pas vivre avec ça. Et le contraire, on est attaché à des personnes qui sont là à nous apprécier. Et c'est ça, cette idée qu'on devrait prendre ce soir, à travers ce qu'on a vu dans la paracha, que combien que c'était difficile pour les bénis d'Israël d'apprécier Betzalel ben Uri ben Hur, que lui maintenant c'est lui qui va construire le Mishkan. Combien c'est difficile d'avoir de belles paroles. Et on n'oublie pas la dernière chose, c'est une mitzvah de la Torah. Quand tu donnes des compliments, pourquoi? Parce que le pauvre, c'est le plus important pour lui, alors qu'il va recevoir une pièce, mais c'est pas ça le plus important. C'est les compliments que tu vas lui faire à ce pauvre. C'est que tu vas lui dire, ben, t'inquiète pas, tu vas réussir, tu vas remonter la pente, et tu l'encourages comme ça. Mesdames, il y a des pauvres aussi, c'est les conjoints, qui a besoin, l'un il a besoin de recevoir de l'autre. et qu'on ne s'habitue pas, parce que c'est ça qui fait que le couple perdure et que l'un a envie d'être avec l'autre et de rester avec l'autre. Sinon, on n'a pas envie. Voilà une notion ce soir qu'on peut encore développer, mais Bezrat Hashem, ça nous permet déjà de réfléchir un petit peu à ce problème. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Toda Rabba. Merci.